Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 189, et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment faire du marketing sans réseaux sociaux?
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage un Instagram live que j'avais fait en début d'année. À propos d'une question hein, qui est vraiment, je pense, dans tous les esprits, qui est ben, si on veut se désinvestir un peu des plateformes exploitatives comme Meta, comme TikTok, bref, les plateformes de réseaux sociaux qui semblent vraiment utiliser notre travail aspirationnel, notre attention, notre énergie cognitive pour faire des profits sur notre dos sans nécessairement nous aider à avoir la visibilité dont on a besoin et tout ça, est-ce que quand même c'est viable de s'en départir? Est-ce que c'est juste un move de privilégié que de pouvoir tourner le dos à ces plateformes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de notre dépendance aux réseaux sociaux aussi? Puis vous allez voir, bon, j'adresse certaines de ces questions naturellement dans ce live. Et c'est quelque chose qui a beaucoup influencé la direction des programmes sur le marketing de contenu que j'ai développé depuis. Notamment, j'avais fait une mise à jour de mon programme phare Money Brand en Money Brand Gamma. Vous allez entendre qu'à un certain moment dans l'entrevue, je parle de Money Brand Gamma. Eh bien, les noms changent, mais les concepts restent relativement semblables. Money Brand Gamma va faire partie de mon nouveau programme signature Infosfera. Infosfera où on travaille non seulement à augmenter la précision des messages à travers un positionnement qui va être limpide, unique, singulier, mais aussi ce qu'on veut, c'est réduire notre temps passé en marketing et ça implique sur les réseaux sociaux. Donc dans Infosfera, on travaille sur deux volets. On travaille au niveau de la génération de leads qualifiés, donc de vraiment trouver ce positionnement, créer un espace, un territoire de marque virtuelle et ensuite être capable de mieux gérer l'énergie qu'on met à transmettre ces messages, hein, l'énergie qu'on met ou les investissements, même si on a une équipe ou des choses comme ça, à faire du marketing en ligne. Donc, si vous êtes intéressé par ce dont je vais parler aujourd'hui dans cet épisode, notamment la création de forteresses de marque, sachez que ça fait partie d'Infosfera. Alors, je vous laisse là-dessus et, comme d'habitude, au plaisir de vous entendre sur le sujet.
On peut faire de la business, est-ce qu'on peut faire du marketing en suivant nos valeurs, sans perdre notre âme, sans donner toute notre énergie cognitive aux plateformes multimilliardaires? C'est la question, je pense, qu'on se pose beaucoup, puis pas je pense, il y a des personnes littéralement dans mon audience qui viennent vers moi puis qui me disent « je suis vraiment en phase avec ce que tu racontes, avec ce que tu dis, je suis en phase avec ce que tu veux enseigner, avec ton coaching », sauf que il y a une partie de moi qui y croit pas. Il y a une partie de moi qui sent pas que je vais être capable de réussir si je joue pas la game que tout le monde joue autour. Puis c'est intéressant parce que ce matin, je me promenais sur les internets et j'étais sur... en fait, j'ai eu comme deux réflexions parallèles, une sur l'utilisation de l'IA par rapport à beaucoup de notre travail et l'autre par rapport à la critique que certains font de ceux qui critiquent justement les réseaux sociaux puis qui ou les différents changements qu'il y a eu sur les algorithmes, sur les plateformes, sur la façon de gérer par exemple des plateformes comme Meta, mais qui disent « ouais, mais Google, ils volent des données aussi, TikTok, c'est pas mieux parce que, bon, on nous espionne, etc., etc. » Donc, si tout le monde est corrompu, ça sert à quoi de critiquer un plutôt que l'autre? Il faudrait boycotter tout, il faudrait arrêter tout. Puis à ce moment-là, ben on se ramasse devant une espèce de vide. Parce que si on boycotte tout, ben comment on va faire du marketing en ligne? Comment est-ce qu'on va se rendre visible? Comment est-ce qu'on va créer des interactions avec notre communauté? Comment on va pas se faire oublier? Comment on fait rouler justement une business qui dépend fondamentalement sur ces plateformes-là pour être vu, pour être connu. Mais pour plusieurs freelance, plusieurs entrepreneurs, PME, c'est une réalité. On reste quand même très dépendant de ce genre de plateforme, hein, ce genre de tactique. Sauf que là où je veux amener la réflexion, c'est que on a quand même une certaine agentivité, puis que le monde qu'on crée autour de nous est une réflexion des choix qu'on fait. Puis je pense qu'on se dit pas suffisamment ça parce qu'on a l'impression de dire, ah ben c'est les grands milliardaires qui décident comment est-ce qu'on va être vu, les algorithmes qui vont décider si notre contenu va être assez bon ou non. Sauf que ce qu'on comprend pas, c'est qu'on est à la fois les producteurs et les consommateurs de ces contenus, de ces plateformes, de ces façons de faire. Fait que plus on continue à le faire, plus c'est la chose à laquelle on va réagir, puis là, on rentre dans ce cercle vicieux-là. Fait que c'est sûr que, de prime abord, il faut juste prendre en compte cette responsabilité-là, cette responsabilisation, puis se dire, ben, moi, j'ai le choix comme entrepreneur de choisir mon horaire, de choisir qu'est-ce que je vais offrir comme offre, avec qui je vais travailler. Et si on a ce choix-là, j'ai le choix aussi de déterminer sur quelle plateforme je vais communiquer, comment je vais parler à mon audience, quel ton je vais adopter et ça va être quoi mon mix marketing. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que souvent quand on pense au marketing, on pense qu'il y a un mix marketing parfait qui fait que si si j'active cette machine-là, les leads vont venir, tout va bien aller pour moi. Si je turn off la machine, les leads vont arrêter, ça va pas bien aller pour moi. Et donc, il y a cette culture d'aller chercher une genre de solution miracle, c'est devenu cliché de le dire, mais une solution qui dit le marketing fonctionne de cette façon-là et dès lors je suis un peu esclave de cette façon de fonctionner parce que sinon je ferai pas d'argent, sinon je serai pas capable de payer mes factures et tout ça. Donc, en ce moment, il y a des idées qui circulent autour de qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec ce qu'on a appris sur les valeurs de Meta, hein, les valeurs qui sont communiquées publiquement, puis qui disent, ben, on va moins vérifier les sources, on va pas nécessairement se soucier de la modération parce que, bon, X, Y, Z, j'ai pas besoin de m'embarquer là-dedans, vous pouvez aller lire mon post que j'ai fait hier sur mon fil, mais la majorité des gens vont dire, OK, ben, pas le choix. Ils s'adaptent. Ils suivent les lois du marché. Nous, on va s'adapter. Puis là, on continue à nourrir les mêmes types de systèmes, la même soupe toxique. Il y a d'autres gens qui vont plutôt dire, OK, ben, si on est pour boycotter un, il faut qu'on boycotte les autres parce qu'ils sont tous aussi evil. Puis ça serait hypocrite de dire que on va s'en prendre à Meta, mais on va pas s'en prendre à toutes les autres. Fait que là, on effondre tout, on brise tout. Si on brise pas tout, ben tant qu'à y être, tu sais, ça sert à rien d'en boycotter un puis de pas en boycotter d'autres. Fait que là, ça, c'est les personnes qui sont plus dans le tout ou rien. Il y a les autres qui vont se dire, la 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 la, moi je m'en fous, moi je suis juste ici pour faire du cash, moi je suis juste ici pour rouler ma business, je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas là pour faire de l'activisme, je suis pas là pour prendre des décisions, je fais ce qui marche, puis si ça marche, moi je suis content, tout le monde est content, mes clients sont contents, on se pose pas de questions. Puis finalement, il y a une catégorie de personnes qui sont comme, je me sens pas à l'aise éthiquement avec ce que c'est, mes valeurs sont t'sais, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit que c'est pas correct, j'ai pas envie de continuer à encourager ça. Je sens que j'ai un pouvoir d'action, mais j'ai peur. J'ai peur de ce qui va m'arriver si je vais contre-courant, si je suis la seule qui utilise pas ces tactiques-là ou ces plateformes-là, si je suis la seule qui fait le choix courageux à quelque part, genre de suivre mes valeurs. Fait que quand tout le monde semble tu sais, y aller free for all, puis on est dans la dans l'arène où tout le monde compétitionne pour les mêmes choses sans nécessairement se soucier du bien, de ce qui est correct, de ce qui fit avec nos valeurs. Ben nous, on se sent un peu isolé à travers cette réflexion-là où c'est comme, ouais, je me sens pas à l'aise avec ce que je suis en train d'encourager en ce moment, mais tu sais, j'ai l'impression que je vais me tirer dans le pied si j'arrête de faire comme tout le monde. Naturellement, je m'adresse aux dernières personnes, hein, ces personnes-là que ils se sentent prises à la gorge. Si c'est toi qui m'écoutes, ben, t'sais, bienvenue dans le groupe. Hein, je me sens pris à la gorge dans une façon de faire du marketing qui me correspond pas, mais j'ai pas d'autre option, puis j'ai pas l'impression que je suis capable de survivre d'une autre façon. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on peut transitionner vers un marketing qui est moins extractif, un marketing qui est plus conscient, un marketing qui ne va pas nécessairement encourager constamment cette surproduction et cette surconsommation de contenu, mais aussi des pratiques qui sont délétères pour certains groupes sociaux et qui encouragent, tu sais, genre ça, c'est sans même parler, genre, de comment ces plateformes sont créés, qui sont pour aller créer des boosts de dopamine dans notre cerveau pour qu'on soit addict. Tu sais, c'est des plateformes addictives. Puis c'est extrêmement. Il y a un livre qui s'appelle. Oh, je me rappelle pas du titre. C'est sur l'anxiété. Bref. Il y a un livre qui avait été écrit qui dit on a étudié l'effet des plateformes sociales sur les adolescents. Sur une période de 10 ans, puis voici les effets sur la santé mentale à long terme. C'est pas genre des choses qu'on a inventées de dire que ces plateformes-là sont mauvaises pour la santé, sont délétères, sont dangereuses jusqu'à un certain degré. Puis là, avec ce qu'on voit avec les dernières annonces, ben on voit aussi que il va y avoir de moins en moins de contrôle, de moins en moins de modération, de moins en moins de vérification. Puis là, ça risque d'être réellement problématique pour bien des communautés marginalisées, des communautés vulnérables qui n'étaient déjà pas très protégées avec la façon dont c'était. Fait que tu sais, il faut imaginer le web comme un autre territoire sur lequel on se connecte plusieurs fois par jour et dans lequel on continue à interagir. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de réel et les règles qui sont régies dans cet environnement-là, ben on a l'impression qu'elles sont faites par des grands et puissants, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, consciemment, on va constamment se connecter là, c'est là qu'on va consommer, c'est là qu'on va interagir, c'est là qu'on va prendre des décisions d'achat et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut transitionner vers du marketing moins extractif et quand même bien vivre, soit répondre à nos besoins, payer le loyer, payer l'épicerie? Et si oui, comment? Bon, maintenant que j'ai fait toute cette longue introduction, je veux juste faire une mini pause pour parler du fait qu'en ce moment, les portes pour Money Brand Gamma sont ouvertes. Et Money Brand Gamma, c'est mon programme où on travaille sur la forteresse de notoriété, la forteresse digital, qui est un lieu où on veut aller protéger nos actifs digitaux sans qu'ils soient en danger dans justement des plateformes non propriétaires, des plateformes sociales auxquelles on n'a pas nécessairement accès. On peut genre à tout moment être bloqué de ces plateformes-là et commencer à créer plus de notoriété, plus de confiance et avoir ces actifs-là sous la main, peu importe comment on va faire évoluer notre stratégie marketing, notre mix marketing. Okay, donc, Money Brand Gamma, le lien est dans ma bio. Donc, je suis pas là. Ce que je veux être claire avec tout le monde, là, c'est que ce que j'encourage mes clients, ce que je m'encourage moi personnellement à faire, c'est pas d'être l'agneau sacrifié. C'est comme, OK, genre, je vais sacrifier ma business au nom de cette espèce de grande moralité parce que je suis tellement meilleure que les autres, puis je suis tellement capable, genre, d'agir beaucoup plus en conscience que tout le monde. Non, je suis comme tout le monde, je dois payer mon loyer, je dois payer mon épicerie, j'ai une enfant qui s'en va à l'école, tu sais, j'ai tout, tu sais, je vis comme tout le monde, OK? Puis j'ai une business en ligne qui se focus sur le marketing organique, le marketing digital pour être capable de de résonner, de rayonner, genre de faire passer mon message. Donc, je suis pas là pour être l'agneau sacrifié, je suis pas là pour que vous soyez l'agneau sacrifié non plus. Je veux qu'on soit pragmatique, qu'on ait des réflexions conscientes, mais qu'on soit quand même capable d'avoir des conversations dans lesquelles on n'est pas simplement comme « ben, je vais faire tout ce qui marche, puis de toute façon, genre, éventuellement comme « the world is burning », alors aussi bien, genre, faire le plus de cash possible d'ici là. » Non. Je pense que, tu sais, si vous êtes ici, moi, je travaille beaucoup avec des femmes, on a des enfants, on est là pour protéger aussi les prochaines générations, fait que les choix qu'on fait aujourd'hui, c'est des choix qui vont se perpétuer dans le futur. Puis je pense qu'il y a cette responsabilité-là aussi d'être parent, puis de dire, tu sais, comme, quels environnements je suis en train de créer aussi pour le futur. Fait que, tu sais, ça s'applique autant, genre, à notre environnement physique réel qu'à notre façon, genre, de transitionner et de transiger dans les environnements digitaux. Donc, l'erreur que les gens font en ce moment, puis ce sur quoi plusieurs de ces plateformes extractives sont basées, c'est que on croit que la game qu'on joue, c'est une game de visibilité. Donc, tout les incentives, la façon genre de nous amener, la motivation qui nous amène à créer ici sur les plateformes, c'est de dire, bon ben, avec les plateformes Meta, avec TikTok, etc., tu es capable d'avoir une visibilité que tu pourrais pas nécessairement avoir sans avoir à payer. Exemple, payer un billboard sur l'autoroute, ça coûte cher. Payer, genre, pour avoir une pub dans un magazine, ça coûte cher. Mais moi, je te propose, genre, d'être visible ici sur Instagram, d'être visible hein, sur les autres plateformes, gratuitement. Fait qu'on nous promet la visibilité. Et donc, ce qu'on se dit, ben oui, du marketing, c'est une game de visibilité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing, la business, hein, c'est pas nécessairement juste une game de visibilité. La visibilité, c'est une des, tu sais, des parties du marketing. Mais le gros levier du marketing, c'est la création de confiance. Puis la création de confiance, oui, ça se fait quand je vous parle comme ça, quand on échange au café, quand vous lisez mon infolettre, mais surtout, ça se fait, c'est pas lié à une plateforme en soi. Hein? Parce que sans confiance, la visibilité, ça sert à rien. Sans visibilité, la confiance existe encore. Je pourrais aller prendre le téléphone, appeler quelqu'un avec qui j'ai travaillé, hein, lui envoyer une lettre ou whatever, lui dire « Hey, ça fait longtemps, on s'est pas vu, nanana, cette personne-là me fait confiance, elle va m'appeler, elle va me rappeler, on va avoir une conversation. » Ok? Même chose avec un... tu sais, souvent, on voit des petits restaurants qui ont pas de page Facebook, qui ont pas de page Instagram, mais il y a tout le temps des gens qui reviennent. Ils sont tout le temps pleins. Il y a un petit restaurant ici, un petit take-out, de poulets africains, puis eux autres, ils ont à peine un numéro de téléphone, ils répondent jamais au téléphone, il faut que tu te déplaces pour aller genre faire ta commande parce que ils sont tout le temps, tu sais, ils sont tout le temps débordés. Ça, c'est parce que les gens ont confiance que quand ils vont là, le poulet va être bon. Puis ils vont faire genre le tour de la ville pour aller le chercher. OK? Donc, la game du marketing, c'est pas de nécessairement générer de la visibilité, mais vraiment de générer de la confiance. Puis ça, c'est super important parce que ça veut dire que même si on coupait les accès à toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes, vous pourriez quand même continuer à faire de l'argent. Puis j'ai une cliente en ce moment, elle a une cliente qui lui paye au-delà, genre, de 70 000 $ par an pour continuer à travailler avec elle, pour pouvoir l'avoir, tu sais, pour pouvoir avoir des appels avec elle, puis tout ça. Donc, tu sais, moi, personnellement, dans mon univers, une cliente qui rentre dans un de mes programmes, souvent, elle va rester plusieurs années. On va travailler en profondeur. Parce que ma façon de travailler, c'est que je sers mes clients sur le long terme, parce que je veux leur succès sur le long terme, fait que je vais développer des offres pour eux, je vais développer des nouveaux portails, OK? Et c'est ce qui fait que quelqu'un comme moi est capable de vivre très bien, de faire de multiples centaines de milliers de dollars, par an avec des très petites communautés. Vous ririez si vous saviez combien de vues j'ai sur mes stories ou combien, ben, tu sais, vous voyez, j'ai 2000 quelques abonnés sur Instagram. Hein, j'en ai pas beaucoup plus que ça sur mon infolettre. Mais si je suis capable de faire de multiples centaines de milliers de dollars, c'est parce que c'est pas parce que mes packages coûtent 100 000 dollars. C'est parce que les gens qui sont dans mon univers me font confiance, rentrent dans mes programmes, après ça, ils font quelque chose d'autre, ils expérimentent des changements, des transformations, ils continuent avec moi, puis comme ça, éventuellement, ça grandit. D'autant plus que je sais personnellement que si demain je fermais ma business, j'ai construit suffisamment d'aptitudes que si je me trouve une job, je vais la transformer en argent. Fait que tu sais, d'un côté, c'est comme, oui, je comprends, genre, comme faut être vu, faut se mettre devant notre audience, c'est sûr, ça fait partie de la game. Mais est-ce que c'est obligé d'être sur les plateformes sur lesquelles on a l'impression qu'on est obligé d'être? Non. Ça, c'est vraiment comme la base que je voulais dire. Parce que si on construit un business sur nos skills, sur notre crédibilité, sur notre nom, sur les transformations qu'on offre, les plateformes deviennent accessoires. Ça devient des lieux où on peut aller échanger avec notre communauté, des lieux où on peut aller mettre nos petits billboards, tu sais, sur nos pages, des repositoires d'informations. Si quelqu'un me trouve sur Facebook, ils vont trouver ma page Facebook, ils vont voir l'image sur le top, puis après ça, ils vont cliquer. J'ai pas besoin d'être là puis de publier à tous les jours. Même chose, vous pourrez avoir un Instagram, c'est juste 6 publications, mais super bien stratégisées. Votre lien mène vers votre site web, il y a une seule offre, les gens, ils voient le site, ils sont contents, blablabla. OK? Fait que, je pense qu'il y a comme une notion ici de mal comprendre à quoi nous servent les réseaux sociaux. Hein? Et on a l'impression qu'il faut être constamment devant les gens pour, après ça, qui se rappellent de nous, qu'ils ont envie de nous parler. Fun fact, ce matin, j'ai reçu un message sur LinkedIn, puis c'était une personne avec qui j'avais pas parlé depuis 2018. J'avais écrit un article de blog sur elle, puis blablabla, en tout cas, bref. Et elle est venue m'envoyer un message, puis elle m'a dit « Hier soir, à 11h45, je pensais à toi, 11h45 du soir, je pensais à toi, il y a une publication très spécifique que tu avais écrite, et j'aimerais ça la lire. » Encore. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Puis j'étais comme, holy shit! Genre, tu sais, comme, avoir quelqu'un qui pense à toi, comme, c'est une publication qui datait de 2021, ça fait comme 4 ans maintenant. Fait que, tu sais, ça, c'est de l'impact. Ça, c'est quelque chose qui continue à vivre, puis qu'on pourra jamais m'enlever parce que ça vit chez les autres. Est-ce que ça était obligé d'être fait sur Instagram? Non, ça pouvait être un courriel que j'ai envoyé, ça pouvait être un épisode de podcast que j'ai enregistré, une entrevue que j'ai donnée à la radio ou peu importe. OK? Fait que c'est agnostique de toute plateforme. Puis ça, il faut vraiment comprendre pour être capable après ça de pouvoir s'en dissocier. Parce que le but ici, c'est d'arrêter de sentir qu'on est pris à la gorge, pris dans une petite cage puis qu'on peut pas bouger. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les plateformes focus sur la visibilité, nous vendent cette promesse de visibilité, plutôt que de vendre la promesse de crédibilité. Parce que si vous voyez les dernières annonces, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire d'enlever le fact-checking? Qu'est-ce que ça veut dire d'enlever de la modération? Ça veut dire que le contenu qui va être partagé va être de moins en moins crédible, puis il va être encore plus garbage, tu sais, dans le sens que s'il n'y a pas de modération, il va avoir de la hate, il va avoir genre des, tu sais, du n'importe quoi, il va avoir comme, bref. Je sais pas s'il va y avoir de la nudité et des choses de même, là, on va peut-être pas en arriver là, parce que, tu sais, on sait à quel point le corps féminin est quelque chose de très, tu sais, je veux dire, on en ce moment, ils censurent les œuvres d'art, mais ils censurent pas le hate speech. Bref, on s'embarquera pas là-dedans. Donc, eux autres, ils jouent leur jeu politique, ils jouent leur jeu de profit, ils font leur game, ils regardent, OK, c'est qui est au pouvoir en ce moment, on va s'assurer, genre, qu'ils vont être contents, on va s'assurer que ils ont pas, tu sais, ils vont pouvoir lancer leur whatever, ce qu'ils ont besoin de lancer, Nous, les petits, le petit peuple, on s'en fout de nos besoins. Tu sais, la petite business en ligne qui avait une communauté puis qu'on lui a fermé son compte pour raison X, pas grave. Mais tant que, bon, les grands dirigeants, ils ont ce qu'ils ont besoin, c'est comme ça que ça fonctionne. T'sais. Mais l'affaire qu'on doit comprendre, c'est qu'on n'est pas pris au piège. On n'est pas pris au piège parce qu'à quelque part, ces plateformes-là, elles fonctionnent avec notre travail à nous. Elle fonctionne avec notre travail gratuit. Notre travail gratuit avec la promesse de la visibilité éventuelle, genre qu'on va nous donner. Et donc, penser qu'on est pris au piège, c'est de délester notre agentivité. C'est de délester notre autonomie. C'est de délester notre pouvoir d'action. Puis je vais prendre un autre petit exemple parce que j'aime faire des petites métaphores, mais l'autre fois, on faisait l'épicerie avec mon mari, puis tu sais, nous, notre épicerie, elle nous coûte 250 $ par semaine. 250 $ par semaine pour deux adultes puis un enfant qui mange presque rien. Okay? Puis ça, c'est parce qu'on a fait, moi personnellement, c'est moi qui l'ai poussé, là, on a fait un choix de manger bio. De manger le plus non transformé, de manger le plus local possible, fait que ça coûte plus cher, puis là, il y a la récession, blablabla. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, on va aller à l'épicerie, puis mon mari il me dit, mais check, genre, le poisson de cette poissonnerie-là, il est genre deux fois plus cher que le poisson de cette poissonnerie-là. Mais moi, je suis comme, ouais, mais on a pris la décision de, tu sais, dépenser plus pour faire ça, puis bon, tu sais, mais des fois, ça nous arrive, tu sais, on va acheter un truc, c'est pas bio, ok, c'est pas local, ok, genre, tu sais, c'est comme, on est humain aussi, des fois, on essaie de budgéter à la baisse, c'est pas facile, ça devrait être, moi, je trouve que c'est absurde, genre, qu'on paye plus pour des légumes, tu sais, des meilleurs légumes, mais bon. Puis c'est un peu la même chose avec notre marketing, dans le sens que on est constamment amené à faire des choix. On est constamment amené à faire des choix, puis il n'y a pas de choix parfait. Il n'y a pas de choix parfait parce que, ultimement, on est dans cette balance entre devoir, par exemple, t'sais, vouloir, par exemple, ne pas être sur ces plateformes-là, mais d'un autre côté, vouloir servir nos clients de la meilleure façon possible. Puis nos clients, ben, ça donne qu'eux, ils s'en foutent si ils sont sur Facebook ou non. Eux autres, ils vont nous chercher là. Fait que, t'sais, OK, on a peut-être notre façon, genre, de faire, c'est on a une page. Je vous donne un autre exemple. Moi, l'année passée, j'ai fait une dépression. Et une des grandes réalisations pour moi, c'était j'en ai assez de faire du contenu gratuit pour des plateformes qui s'en foutent un peu du bien, tu sais, de la vie des personnes, genre, qui nourrissent leur plateforme. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? J'ai commencé à faire de la pub. Mais quelqu'un qui me verrait, il dirait, ouais, mais c'est pas hypocrite, ça, de dire, genre, tu veux pas utiliser les réseaux sociaux, mais t'es sur les réseaux sociaux puis tu mets de l'argent sur la pub? Ben, c'est parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, pendant que j'étais comme j'avais beaucoup moins d'énergie cognitive, pour moi, c'était ma façon de rester présente, genre, d'amener des gens dans mon univers sans que j'aie à dépenser plus de mon énergie, plus de mon cerveau, plus de ma créativité. C'est un choix, peut-être qu'éventuellement, puis tu sais, moi j'ai bâti ma business, ça fait 8 ans que je suis en business, j'ai bâti ma business sans la publicité. L'année passée, j'ai commencé la pub parce que j'ai arrêté de faire du contenu. C'est un choix que j'ai fait, mais c'est un choix qui, de l'extérieur, peut avoir l'air imparfait ou hypocrite ou whatever. De l'intérieur, c'est des choix stratégiques que je fais pour pouvoir, ben, premièrement, mettre mon masque d'oxygène, puis deuxièmement, après ça, être capable de prendre des choix plus éclairés, faire des transitions plus éclairées. Fait que ce que je veux proposer ici, là, comme réflexion, c'est que est-ce qu'on peut faire du marketing sans les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut faire du marketing sans être sur les grosses plateformes? La réponse est oui. Est-ce que ça va être plus facile? On ne sait pas. Pas nécessairement. Est-ce que c'est plus facile de faire du marketing avec les réseaux sociaux? Pas nécessairement. Hein? Avec les changements d'algorithme, avec tout ce qui s'en vient, ça va pas nécessairement être plus facile. Est-ce qu'on a le choix? C'est là que moi je dis oui. On a le choix. Puis là où moi, je focus mon énergie et je mets cette énergie-là depuis le début de mon entreprise et c'est ça qui me sert justement encore aujourd'hui à continuer à générer justement du profit sans avoir à constamment être présente ou en pouvant choisir les plateformes sur lesquelles je suis, c'est que j'ai bâti ces actifs de notoriété, ces actifs de crédibilité, cette confiance-là à travers les actifs là, dont je parle. Puis ces actifs-là, ben c'est une liste courriel, c'est un site web sur lequel j'ai à peu près 300 articles de blog, 186 épisodes de podcast. Fait que tu sais, si quelqu'un cherche mon nom sur Google, ben ils vont trouver de quoi. Là, on peut dire, oui, mais Google aussi, c'est mauvais, genre, fait que tu devrais boycotter Google, non, faire du SEO. Moi, je dis, jusqu'à un certain point, c'est comme, oui, tu sais, oui, dans un monde idéal. Google, je l'utilise pas non plus. Mais tu sais, il y a des limites aussi à ce qu'on peut demander à un individu qui est justement, bon, il y a plein d'obligations, il y a des transitions. Fait que tu sais, un mix marketing, ça se fait individuellement. C'est pour ça que c'est vraiment important, genre, de comprendre ça, c'est qu'un mix marketing, c'est individuel. Ceci dit, il y a des actifs marketing qui sont bons pour tous. Puis ces actifs-là, comme j'ai dit, tu sais, le networking de contenu, une infolettre, une plateforme où est-ce qu'on peut partager nos pensées sans être censuré, où est-ce qu'on a l'espace pour justement faire du thought leadership, et des plateformes propriétaires surtout, tu sais, puis d'avoir justement des séquences puis des écosystèmes d'offres qui font du sens où on bâtit ça sur notre crédibilité, on bâtit ça sur nos skills et éventuellement ben on construit genre des business comme ça. Donc on investit dans ce qui fait du sens pour nous, mais aussi avec une vision de qu'est-ce qui fait du sens pour nous sur le long terme. Puis là, en ce moment, ce que je sens, c'est que les gens y investissent beaucoup sur le court terme en se disant comme « Ah, j'ai besoin de faire de l'argent là, maintenant, tout de suite, avec zéro skills, avec zéro crédibilité, avec zéro following. » Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut que je devienne virale si... Tu sais, c'est la seule option, tu sais. Alors, je peux pas faire quoi que ce soit d'autre sans les réseaux sociaux parce que ma stratégie de croissance, c'est la viralité. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres façons de faire. C'est des façons qui sont plus long terme, naturellement, mais qui vont payer sur le long terme aussi. Puis ces stratégies-là, ben c'est ce qu'on regarde dans Money Brand Gamma, c'est ce qu'on va créer ensemble, ces actifs-là, on va les regarder ensemble, on va s'assurer qu'ils sont en phase avec votre entreprise, on va s'assurer qu'ils sont en phase avec votre positionnement, votre ton, etc. Mais tu sais, ce que je veux aussi vous rappeler, c'est qu'il n'y a pas de stratégie parfaite, que turn the switch on, ça, tu sais, ça arrive, turn the switch off, ça arrête. Ça, là, il faut juste arrêter, genre, de penser à ça. Puis l'autre chose, arrêter de se considérer comme si je ne suis pas capable de le faire parfaitement, ça ne vaut pas la peine. Si je ne suis pas capable de déconnecter, genre, de tout, ça ne vaut pas la peine de me déconnecter de un. Si je suis pas capable genre de transitionner tranquillement, graduellement vers un autre mode de vie, ben ça vaut même pas la peine de commencer. Ça, c'est juste comme d'avoir les yeux dans le même trou, genre d'être comme complètement aveuglé, de regarder l'arbre au lieu de la forêt. Puis moi, ce que je veux vous encourager, c'est regarder la forêt, puis commencer justement à planter des nouveaux arbres que vous allez comme pouvoir aimer, que vous allez arroser, puis qui éventuellement vont donner des fruits.
Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcasts, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple, navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.